Claude Duguay, bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, vous aussi?
Oui, très bien, merci.
Est-ce qu'il neige à Trois-Rivières?
Pas mal.
Nous, ça s'est calmé un peu à Montréal. Dans cette publication électronique que vous avez publiée, qui s'intitule « L'inclusion en éducation physique », vous avez coécrit ça avec Mathieu Point, si je ne me trompe pas.
Exactement.
Votre souhait était de rejoindre, bien sûr, les professeurs d'éducation physique pour qu'ils aient un outil très concret si jamais, dans leur classe, arrivait un petit bout de femme ou un petit bout d'homme avec un handicap ou une déficience. Est-ce que c'est parce qu'il y avait un besoin? Vous aviez observé un manque en ce sens.
En fait, oui, il y avait un grand besoin. Il y avait aussi un grand besoin de bien préparer les futurs éducateurs physiques. Donc, il y avait cet objectif-là dans l'écriture du livre. Et c'est toujours un grand défi d'adapter, de modifier, quel que soit le niveau d'enseignement, on est toujours confronté à des modifications à faire et des ajustements à faire. Donc, c'est parti de cette idée-là et du besoin d'avoir des informations en français. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'informations en langue anglaise.
Vous départagez assez rapidement les deux termes inclusion et intégration qui sont pas, selon vous, tout à fait, qui n'ont pas le même sens.
Pas vraiment. Ils sont, en fait, les deux termes ont des visées relativement similaires, des fondements assez similaires là, de liberté, d'égalité, d'opportunité, de chance pour tous. Par contre, dans le cas de l'intégration, c'est cette idée de continuum, donc d'une intégration progressive compte tenu des progrès de l'élève, qui peut aller de services très spécialisés à une inclusion ou une intégration en classe régulière qui n'est pas complète. Dans le cas de l'inclusion, qui est un mouvement beaucoup plus récent, c'est basé sur les mêmes fondements, mais sans égard aux capacités de l'élève. Donc, il y a un placement en classe régulière sans tenir compte du niveau de difficulté et évidemment en offrant de l'aide importante à l'enseignant pour qu'il puisse faire l'inclusion de cet élève.
C'est peut-être un terme inclusion qui est plus large.
Oui, plus large et certainement avec une autre visée, avec cette idée de ne jamais, jamais exclure un élève.
Oui.
Et qui représente un défi énorme, là, on est d'accord.
Oui. Claude Duguay, il y a aussi une précision ou une nuance que vous apportez que j'ai trouvée extrêmement intéressante, c'est la différence entre le handicap personnel et le handicap social. C'est-à-dire que si le milieu est adapté, la personne handicapée n'a pas d'obstacle, donc elle est en quelque sorte peut-être, c'est drôle à dire comme ça, mais moins handicapée.
Oui, c'est sûr que la capacité qu'on a de reconnaître les besoins des élèves, des enfants, d'adapter, de bien adapter, de bien modifier et de tenir compte constamment de l'évolution de l'enfant va faire qu'il va ne pas percevoir sa différence ou presque pas.
Mm-hmm.
C'est vraiment l'objectif ultime.
Oui. Oui, parce qu'on parle souvent, ou en tout cas du moins peut-être plus souvent, de sport adapté.
Oui,
mais
beaucoup.
C'est pas de ça que vous parlez dans cette publication.
Assez peu. J'aborde très peu le sport. On aborde très peu le sport dans le volume, plus parce que ça s'adresse aux éducateurs physiques et qu'il n'y a pas que le sport dans l'éducation physique. Il y a le développement de toute autre habileté. Il y a l'idée de développer des savoir-faire physiques qui vont donner à l'élève des moyens de vivre une vie active et de participer ultimement à des sports. Oui. Donc, on l'a vu dans une perspective plus large.
Vous en faites vraiment un très beau portrait de ces jeunes-là qui vivent soit avec des difficultés d'apprentissage ou différents handicaps. Quel est leur portrait, Claude Duguay, dans les écoles au Québec?
Oui, le portrait statistique, il est intéressant hein, parce qu'on a quand même une diminution de la clientèle étudiante et une augmentation de la clientèle qui présente des déficiences ou des handicaps.
Mm-hmm.
Donc, il y a ce besoin qui est très, très présent qui va en augmentant. Par contre, il y a un autre portrait qui est peut-être moins réjouissant, c'est la capacité d'intégration ou d'inclusion dans les classes dites ordinaires, qui a tendance à beaucoup diminuer à mesure que l'élève progresse du préscolaire au niveau secondaire.
Mm-hmm.
Donc, il reste encore beaucoup de travail à faire pour permettre à tous les élèves, quel que soit leur type de déficience ou de handicap, de participer pleinement.
Et on voit que le tableau peut être assez large dans cette publication-là, parce que ça va de la déficience sensorielle à une difficulté plus d'apprentissage. Oui. Ça peut aller partout, être très vaste, là.
Oui, c'est très vaste. C'est clair que les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage représentent la plus grande proportion des élèves qui ont des besoins particuliers. Mais c'est clair que nous, dans la publication, on a beaucoup plus abordé la dimension motrice, sensorielle et les handicaps plus connus.
Comment on fait, et là, ça, c'est la question, peut-être, là, comment on fait pour rendre les cours d'éducation physique plus accessibles, finalement?
Bien, et je pense qu'il y a un grand besoin, ou pas un besoin, on doit communiquer. Moi, je reviens avec mes étudiants très souvent sur l'importance de communiquer et avec les parents, et avec les enseignants qui ont eu des élèves dans le passé, pour bien comprendre les besoins, bien comprendre l'évolution de l'élève. Et il y a évidemment la communication à l'intérieur de l'école pour s'entendre sur les besoins, sur comment on interagit avec cet élève-là. Ça m'apparaît pour moi les éléments clés qui vont permettre de faire des ajustements.
Oui, parce que avant d'adapter son cours, l'éducateur physique doit connaître les particularités de l'enfant, une déficience, un handicap, point de vue santé, qu'est-ce que ça signifie, puis après, point de vue dans son cours, au sein même de son cours, qu'est-ce que ça peut signifier.
Et ça, on a fourni quelques outils dans le volume. Il y a des grilles d'observation, il y a des outils systématiques d'évaluation. Mais moi, j'insiste beaucoup avec mes élèves avec mes étudiants pour qu'ils développent leur propre grille d'observation qu'ils vont faire régulièrement dans différentes situations, d'apprendre à bien regarder leurs élèves et à voir l'évolution.
Parce que, et vous le mentionnez, ça débute par une préparation qui est adéquate.
Oui.
Et qui se fait, j'imagine, là, l'entrée des classes se fait en septembre, qui se fait dès le début, là.
Oui, tout à fait. Puis même si on peut avoir des informations avant l'entrée des classes sur les élèves qui ont un handicap ou une déficience, qui vont fréquenter l'école, c'est précieux, là, de lire. Aujourd'hui, l'accessibilité à l'information est très grande, hein. Il s'agit de faire la démarche avant pour connaître les élèves qui seront avec nous et quelles sont leurs difficultés et déjà commencer à regarder quels seront les défis à relever.
Et on fait comment pour que les élèves qui ne présentent pas de limitations, de déficience ou de handicap embarquent également dans cette proposition-là?
Bien, je pense que la question du dialogue est importante, mais là, il y a quand même des petits outils intéressants qu'on retrouve dans notre volume et sur le web un peu partout. Des petites mises en situation, des jeux de rôle qu'on peut faire avec les élèves pour qu'ils puissent vivre des expériences, que ce soit d'emprunter un fauteuil roulant et de leur demander de faire des courses, qu'on leur demande de s'attacher leur bras dominant, puis ensuite de lancer uniquement avec leur bras non dominant. Et ils vont vivre, c'est quoi ces difficultés-là? Moi, avec mes étudiants, je fais toujours une séance en gymnase où je les fais travailler à l'aveugle pendant presque une heure. Et chaque année, j'ai des étudiants qui viennent me voir puis ils me racontent comment ça a été difficile, comment ils ont vécu ça avec beaucoup d'anxiété et de stress, là, cette petite heure sans voir.
Qu'est-ce que vous pensez que ça amène à ces élèves-là, autant ceux qui vivent avec une limitation que les autres, d'être tous ensemble à pratiquer une activité physique?
Ben moi, je pense que ça les amène à reconnaître et à vivre les différences, puis à vivre des expériences agréables. L'avantage de l'éducation physique, c'est que c'est une autre modalité. On apprend d'une autre façon. On apprend avec son corps. On est en action. C'est très, très différent de toutes les autres heures de la journée à l'école, là, c'est un moment privilégié et je pense qu'il faut le faire vivre à tout le monde avec le plus de joie possible et le plus souvent possible.
Ouais. Claude Dugan, à quoi les éducateurs physiques, donc vos étudiants à l'université, sont confrontés? Est-ce que c'est le manque de matériel? Est-ce que c'est le manque d'encadrement des directions?
Oh, je pense qu'il y a un peu de tout cela. Moi, je continue de penser qu'il y a aussi, au départ encore, un peu de difficulté à bien comprendre les élèves différents. Ça reste un défi pour moi à chaque année de les amener à mieux comprendre les enfants qui sont différents, qui ont des difficultés importantes et comment ils peuvent eux-mêmes les aider. Ça reste pour la plupart des jeunes éducateurs physiques un de leurs grands défis et une difficulté majeure pour eux.
Est-ce que de les faire bouger, par exemple, dans un fauteuil roulant ou les yeux bandés est une façon de leur faire comprendre cette différence?
C'est une première étape, hein, parce que le vrai défi, c'est ensuite de vivre dans une classe avec 25 ou 26 ou 30 élèves et d'être capable d'offrir des défis à tous, donc d'offrir des défis aux élèves qui ont moins de potentiel, à ceux qui en ont plus et à ceux qui ont une limitation fonctionnelle. C'est le vrai défi de l'éducateur physique, de tous les enseignants. C'est de trouver la façon de rendre les activités stimulantes pour tous.
Oui, l'espace nécessaire pour que tout le monde se réalise pleinement. Parlant de potentiel, Claude Dugan, est-ce que les attentes ou les compétences recherchées devraient être les mêmes pour un enfant avec une limitation ou un enfant qui n'en a pas?
Oui. Si on prend la compétence la plus nouvelle du ministère, c'est-à-dire celle d'adopter un mode de vie sain et actif à long terme, pour moi, celle-là demeure vraie pour tous les élèves. Par contre, dans le quotidien de l'évaluation, c'est évident que l'éducateur physique doit s'adapter et doit voir beaucoup plus en termes de progression et d'évolution de l'élève plutôt que de l'atteinte d'un marqueur spécifique à un moment donné. Mais sur celui de l'adoption du mode de vie, c'est ce qu'on vise tous, là. C'est ce qu'on souhaite qu'il puisse arriver à tous les enfants, de vivre des expériences positives dans leur cours d'éducation physique qui, ultimement, pourraient se transférer dans leur quotidien comme jeune adulte ou comme adulte plus tard.
Oui. Et j'ai l'impression, comme je le disais tout à l'heure en introduction, que les impacts positifs sont peut-être encore plus probants chez ces jeunes-là parce qu'il peut y avoir une amélioration nette de leur état de santé, douleurs chroniques ou quoi que ce soit. Là.
Tout à fait. Ou dans leurs habiletés motrices, hein? Dans l'idée d'être capable de faire des choses différemment ou avec plus de facilité à la fin d'une année scolaire, c'est je crois, un accomplissement important.
Est-ce que vos étudiants, les futurs éducateurs physiques du Québec, ont cette crainte ou cette angoisse-là de recevoir des enfants différents dans leur classe?
Oui, c'est clair. Je pense que quand on les questionne un peu plus longuement, tout le monde se dit prêt, mais quand on leur présente les défis, c'est évident qu'il y en a qui sont plus anxieux et c'est normal. Je pense que c'est tout à fait normal. Il faut juste bien les outiller et ce n'est pas qu'à la sortie de l'université qu'on est outillé. Là, il faut continuer à s'outiller tout le long de sa carrière.
Oui, et puis c'est vrai qu'en le vivant, en ayant cette rencontre avec un enfant qui présente différentes déficiences ou limitations, on peut apprendre davantage. Il y a aussi le contact avec les parents, j'imagine, qui est important.
Oui, moi je pense que c'est probablement l'endroit où le contact avec les parents est à privilégier et à discuter avec eux. Puis toute l'idée de ce mode de vie sain et actif, c'est aussi avec les parents qu'on en discute et qu'on l'élabore, qu'on le construit. C'est d'autant plus important.
Oui, et il y a aussi, en terminant, ce truc-là, peut-être, que vous donnez, à savoir des mentors.
Oui.
que des fois l'enseignant ou le parent est peut-être pas suffisant ou peut-être pas la personne adéquate à ce moment-là donné, mais qu'un mentor, un enfant plus vieux, oui, peut être une personne pour guider l'enfant et ça amène beaucoup cette relation aux deux.
Oui, ça amène c'est une relation positive, c'est-à-dire que celui qui est le mentor va développer de nouvelles habiletés de communication, il va utiliser ses connaissances et il va interagir différemment avec l'élève qui a une limitation.
Mm-hmm.
Et celui qui a une limitation, bien, va profiter de plus d'informations, de plus de rétroactions, puisque l'enseignant ne peut pas être constamment avec lui.
Oui, surtout que lorsque l'on pense à des classes très chargées, 25, oui, 30 étudiants, là, bien sûr.
Ça demande une autre forme d'organisation.
Mm-hmm. Et bien sûr, il y a le défi sportif Altergo, mm-hmm, là, pour justement cette initiation-là. Aux enfants différents qui pratiquent une activité sportive, et ce, avec beaucoup de plaisir. Vous, oui, serez présent à partir du 27 avril, Claude Dugas?
Oui, je serai là.
Ben, au plaisir de vous reparler peut-être à ce moment-là, alors.
Certainement.
Claude Dugas, vous êtes directeur du département des sciences de l'activité physique à l'UQTR, auteur, co-auteur de cette publication qui s'intitule « L'inclusion en éducation physique », qui est vraiment, je tiens à vous le dire, un document très, très complet que j'ai eu beaucoup de plaisir à feuilleter. J'ai beaucoup appris à l'intérieur. Merci beaucoup.
Bien, merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.